Un nouveau site pour les femmes réalisé par une femme. Sur RCF, bonjour chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. Cette émission parlera beaucoup des femmes, mais si vous ne vous sentez pas exclus toutefois, nous avons en studio pour nous parler de ce nouveau site pour les femmes réalisé par une femme, et bien justement la fondatrice de ce site, Laetitia Pouliquen. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Alors vous êtes mère de 4 enfants, vous habitez en Belgique, vous êtes diplômée ingénieure commerciale et vous avez un master en bioéthique. Alors qu'est-ce qui vous a amené à nous proposer une réflexion sur le féminisme, à proposer un site? Comment vous en êtes arrivée là?
Je vous remercie de me recevoir, tout d'abord. C'est toujours un grand bonheur d'être sur RCF. Mon site womanattitude.com, woman comme femme, W-O-M-A-N, attitude, tout attaché.com, a pour objectif d'offrir une réflexion sur l'identité de la femme, y donner du sens. C'est réellement dans l'idée d'ouvrir un débat sur la finalité, sans partir d'une idéologie, mais par le constat du réel. En fait, j'ai constaté, à travers mes études de bioéthique et à travers de nombreuses lectures qui me préoccupent depuis une dizaine d'années maintenant, un grand vide entre les revendications des féministes, qui, si on peut les résumer grossièrement, se résume à deux phrases, le sexe et le fric.
Le pouvoir aussi peut-être.
Le pouvoir certainement, mais qui sont assortis à mon avis à cette libération sexuelle et à cette autonomisation par l'argent procuré par le travail. Les femmes ayant toujours travaillé d'ailleurs de tout temps, de toute éternité, mais là elles ont acquis une liberté qui leur permette de se détacher de l'homme progressivement. Et donc, par ailleurs, vous avez donc ces revendications féministes que l'on retrouve très violentes et très marquées au moment de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, date à laquelle j'ai lancé mon site. Et puis, cette vision archaïque de l'identité de la femme, qui est celle de la soumission, du paternalisme, qui a occupé, en gros, une dizaine de siècles entre, un peu moins d'une dizaine, une huitaine de siècles, entre la fin du Moyen-Âge et notre début du XXe siècle, où nous avons vu émerger de nouveaux droits et l'acquisition par la loi d'une réelle égalité, qui était bien entendu une très bonne chose.
Et alors, quel est votre objectif par ce site? Vous voulez occuper un créneau, vous nous avez cité donc les deux extrêmes, pas le féminisme agressif, pas la femme soumise. Alors, que proposez-vous aux femmes par votre site, justement? Quel est votre objectif?
C'est vraiment une troisième voie du féminisme que je cherche à mettre en avant. Elle existe, de nombreuses femmes en ont fait la promotion, je pense ne rien inventer en réalité, mais j'aimerais vraiment proposer, en particulier aux jeunes, un féminisme décomplexé et vrai, qui construit sur les acquis des années passées, les acquis en particulier en termes de droits, et qui, par ailleurs, y rajoute une touche de vrai féminisme, qui est de se réjouir de la beauté de la femme, de se réjouir de s'émerveiller d'être femme. Je crois que de nombreuses jeunes filles, vraiment les générations 68-ardes, ont permis d'ancrer dans la tête des jeunes filles qu'elles pouvaient tout faire, y compris se comporter comme des hommes. Et je pense qu'il y a quelque chose de très faussé et qu'il faut leur réapprendre, leur faire redécouvrir cette beauté d'être femme.
Donc l'émerveillement sur la beauté de l'être femme. Et alors là, ça a une implication dans d'autres domaines. D'abord, la femme doit se reconsidérer elle-même pour ce qu'elle est. Elle doit redécouvrir son identité. C'est peut-être un premier stade.
C'est exact. C'est vraiment le travail que je propose. Donc c'est vraiment le revenir au sens premier. Pourquoi suis-je une femme? Quand on est catholique, pourquoi le Seigneur m'a fait femme? Comment ça se déploie dans ma vie à la fois familiale et de travail, comment j'organise cet équilibre et quelle place, comment je vais faire en sorte que ça se déploie dans ma vie de tous les jours. Alors ce sont des questions qui effectivement à 20 ans qu'on a du mal à aborder, auxquelles on n'apportera pas nécessairement de réponse immédiatement. Cependant, les avoir en toile de fond, avoir en toile de fond ces questions fondamentales permettra d'apporter des réponses qui pourront se moduler en fonction des étapes de vie d'ailleurs, avec pour objectif d'être pleinement femme en Christ dans l'au-delà.
Alors ce site est une plateforme d'échange, donc de propositions, mais vraiment des propositions très concrètes pour mettre en œuvre justement cette troisième voie du féminisme, comme vous l'appelez. Alors concrètement, par exemple, sur le plan économique et politique, qu'est-ce que vous suggérez ?
Sur le plan économique et politique, il y a énormément à faire. Je pense que, pour vous donner un parallèle, en France, la catégorie socio-professionnelle de la femme au foyer, c'est inactif. Il y a quelque chose de profondément choquant. De quelle manière la femme au foyer est-elle inactive ? Bien entendu, elle ne l'est pas. Elle est au service de sa famille et elle est très souvent au service des anciens, des handicapés. Sa vie est émaillée d'actions de bénévolat. En aucune manière, elle est inactive. Elle est même complètement au service de la société. Alors,
et donc là, vous
l'apport spécifique au monde économique de la femme est totalement sous-évalué. Parce que non seulement, effectivement, elle produit et c'est comptabilisé dans le produit intérieur brut par son revenu, mais aussi elle fait travailler des gens quand elle est en dehors du foyer, et ça n'est pas évoqué. Quand elle a une femme de ménage pour faire ce qu'elle-même pourrait faire si elle était au foyer. Et par ailleurs, tout ce travail invisible, ce travail non marchand, n'est pas comptabilisé dans nos produits intérieurs bruts. Et ça me paraît, ne pas prendre en compte, être une idée faussée, finalement, de l'apport économique de la femme dans sa complétude, si vous
Donc
voulez.
Donc plutôt là, à ce niveau-là, une reconnaissance vraiment souligner de ce que la femme au foyer est active et construit la société.
Au foyer et même quand elle travaille, parce que même si elle travaille, elle effectue beaucoup dans la famille et sur le plan logistique. Elle est chef d'entreprise, elle est médecin à 16 heures, elle est institutrice à 16 heures, elle fait les conduites des enfants. Enfin, voilà, quand elle est mère, elle a deux jobs.
Alors mesdames, et peut-être messieurs aussi, j'espère que vous avez noté l'adresse du site womanattitudes.com où c'est une véritable source pour se former et s'informer. Et nous parlons avec Laetitia Pouliken qui a fondé ce site. Nous évoquions la reconnaissance économique et politique, peut-être aussi au niveau culturel et social. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez sur votre site.
Oui, la défense de l'identité féminine me semble concerner en tout premier lieu les jeunes filles. Non pas que nos générations soient perdues pour la cause, mais en commençant par le début, je pense que si l'on évoquait aux jeunes qui sont en formation à l'école le fait que leur état de vie va conditionner un certain nombre de choses, et en particulier le choix des études. Il ne faut pas se leurrer, il y a des professions qui mettent nettement en difficulté l'équilibre vie de famille, vie professionnelle.
Et la femme par conséquent.
L'homme est bien entendu concerné par ce sujet-là, et mon site est émaillé de merci aux hommes d'ailleurs pour ce qu'ils révèlent les femmes à elles-mêmes. Pour revenir à cette histoire d'état de vie, c'est Edith Stein qui a évoqué, en tant que philosophe, qui a évoqué la première, ces options. Elle détermine trois états de vie. Célibataire dans le monde, célibataire consacré et épouse et mère. Et je pense que c'est intéressant, à partir de 15, 16, 17 ans, que les jeunes filles se posent la question. À quoi me sentais-je appelée ? Est-ce que j'ai fondamentalement envie d'être mère ? Auquel cas, mes choix seront édictés par cela. Évidemment, si je suis célibataire consacrée, ma fécondité sera, elle, spirituelle, ce qui n'exclut pas le travail, d'ailleurs, puisque de nombreuses communautés marient les deux. Et par ailleurs, la célibataire dans le monde, elle, pourra être complètement engagée sur un plan économique et sociétal, et aura 100% de sa disponibilité à cela. Donc, tout ça pour revenir au fait que l'état de vie est une première réflexion avant même de choisir des études. Et c'est quelque chose à laquelle je suis assez attachée. Donc, et qu'Edith Stein détermine très bien.
Cet état de vie, justement, conditionne les choix d'études, par exemple.
C'est exact.
Il y a d'abord, il y a un avant, le choix des études, c'est bien ça que vous voulez dire.
C'est exactement ça, et je pense que ça contredit systématiquement ce que notre monde nous dit, que les femmes can have it all, comme on dit en anglais, que les femmes peuvent vraiment tout faire. Des hommes comme un économiste australien, Nigel Marsh, le dit très clairement, un, les journées n'ont que 24 heures, et deux, si l'on veut arriver à un équilibre entre le temps consacré à sa propre famille, un temps personnel, un temps spirituel, pour trouver un équilibre à la fois physique, spirituel et de travail et d'intellectuel, si vous voulez, il ne faut pas se leurrer. Il faut faire des choix, il faut y mettre des priorités.
Donc là, c'est vraiment aller à contre-courant.
Totalement à contre-courant, malheureusement.
Vous ne ferez pas des amis avec ceux qui promeuvent la théorie du gender. Hein.
C'est absolument ça. Et non seulement la théorie du gender, mais vraiment toutes ces femmes qui réussissent professionnellement et qui attachent une importance première à leur accomplissement personnel via le travail.
Donc c'est une question de priorité, selon vous.
C'est une question de priorité, absolument.
Mais de formation.
Est-ce que ce choix même de la priorité sur le travail n'est pas condamnable en soi ? Si c'est ça qui épanouit la femme, très bien. Et par ailleurs, quand on a mis la priorité sur la famille, ça n'exclut en aucune manière que l'on puisse travailler et que l'on puisse le faire intelligemment. D'ailleurs, je pense que les moyens technologiques de notre époque nous permettent de le faire. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même,
ayant
quatre enfants et travaillant de la maison.
Est-ce que vous croyez que la femme a toujours le choix, je dirais, de soit rester à la maison, soit... Est-ce qu'elle doit parfois... travailler.
Bien entendu. Et alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. On constate, tous les chiffres le montrent, Caritas a fait un grand rapport sur le sujet, c'est que les femmes sont en... Les 80% des foyers monoparentaux sont constitués de femmes. Ça veut donc dire que ces femmes portent à elles seules la famille et le fait de subvenir aux besoins de la famille. D'où une très grande solitude de ces femmes et souvent un état de pauvreté accru. Parce qu'elles prennent des jobs à mi-temps, par exemple, elles ont peu de temps à se consacrer à elles-mêmes. Donc là, il y a un réel problème. C'est un problème en croissance, en partie à cause du divorce. Je pense que pour ces femmes-là, en effet, il n'y a pas vraiment de choix conscient et de choix à poser. Donc là, ce que j'aimerais proposer, ce sont des temps de formation. Des temps de formation dédiés qui permettent de sortir de ces ornières quand on est caissière et qu'on a envie de faire quelque chose de sa vie, d'avoir des parenthèses de vie qui permettent de se former intellectuellement et d'acquérir des compétences par ailleurs, permettraient d'améliorer ces niveaux de vie. De la même manière, le microcrédit qui se développent d'ailleurs beaucoup, qui permettent à des femmes de se mettre en réseau, à être solidaires les unes des autres, permettraient aussi de créer des petits business, des petites affaires de chez soi, permettant de combiner vie de famille et vie professionnelle. Donc je pense vraiment formation, soutien financier, et il y a un dernier point qui est à mon sens important, qui est promu par certains de nos politiques, mais qui est difficile à mettre en œuvre, parce que évidemment les budgets sont chroniquement en déficit, les budgets des États, c'est le financement de la femme au foyer. Et alors on ne peut pas l'appeler... salaire, parce qu'il n'y a pas contrat, dans la mesure où quand on a des enfants, ce n'est pas un contrat que l'on a avec eux, on les a à vie, on assume cette responsabilité, mais un défraiement, mettons, de la femme au foyer tant qu'elle est auprès de ses enfants. Les 300, 400 euros équivalent du CPAS, par exemple, qu'elle pourrait toucher en sus des allocations familiales que tous les foyers touchent, qu'on travaille ou pas, permettrait peut-être à certaines femmes de prendre cette décision consciemment, de rester auprès de leurs enfants, afin de s'en occuper pour une période déterminée et par la suite revenir à un monde extérieur de travail.
Alors, le site Woman Attitude que vous avez fondé s'adresse, je crois, à toutes les femmes, tous les pays, et en particulier peut-être l'Europe, vous l'avez dit, les jeunes filles. Vous voulez donc faire une sensibilisation à l'émerveillement d'être femme. Vous avez choisi des moyens. Quels sont les moyens utilisés pour faire passer justement votre message, votre concept ?
Oui, alors vraiment, en termes d'audience, si vous voulez, moi j'ai à cœur de toucher les jeunes femmes. Et quand je donne des conférences, je m'aperçois qu'en effet, elles entendent de ma part des choses qu'elles n'ont jamais entendues ailleurs. Est-ce parce que je suis totalement en contre-courant, c'est possible, mais c'est aussi qu'elles ont une oreille particulièrement attentive quand on leur dit « attention, il y a des pièges, par ailleurs ». Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi vous étiez femme et quelles sont les beautés que ça recèle ? Accueillez-vous votre corps avec là aussi les beautés qu'il recèle ? Quand on est sous pilule depuis l'âge de 15 ans, on ne sait pas très bien comment fonctionne son corps. On ne sait pas très bien comment vient ce jaillissement de vie. Par ailleurs, les moyens utilisés s'adressent effectivement plus spécifiquement à la tranche 20-35 ans, mettons. Ça n'exclut en aucune manière les femmes plus âgées. Moi-même, je fais partie de ces femmes plus âgées, d'ailleurs. Mais Twitter, Facebook, Internet, le blogging, tout ça sont des choses auxquelles les jeunes femmes sont habituées. Elles ont l'habitude de se confier de manière parfois anonyme, parfois... En signant, en apportant des idées vraiment intéressantes, des propositions véritablement intéressantes. Les moyens modernes aussi sont intéressants parce qu'ils font le parallèle, ce sont les moyens identiques que ceux qui sont utilisés par la génération des 20-40 ans pour promouvoir un produit, promouvoir un projet, promouvoir une idée. On voit bien toutes ces blogueuses qui sont de plus en plus connues, qui arrivent à en faire un business d'ailleurs. Et par ailleurs, enfin, on voit encore un parallèle des moyens utilisés Internet, Facebook, Twitter, pour créer une communauté et qui sont ces moyens que l'on utilise pour créer un rythme de travail acceptable et créer un environnement de travail, ce qu'on appelle en anglais le New World of Work, ce nouvel environnement de travail qui fait que les femmes peuvent faire du job sharing de chez elles, peuvent faire du travail à domicile et gérer son emploi du temps comme elles le sentent acceptable au vu de leurs besoins familiaux et personnels.
I found my thrill. My dreams came true. The wind and the willow played. melody. But all of the vows we made were never to be. Though we're apart, you thought of me still.
Mesdames et messieurs, nous sommes donc avec Laetitia Pouliken pour découvrir cet outil qu'elle propose, un site internet lancé lors de la journée de la femme qui s'appelle womanattitude.com. Laetitia Pouliken, je crois qu'on peut franchement affirmer que vous allez à contre-courant, puisque vous aidez les personnes qui visitent votre site et qui reçoivent vos informations à redécouvrir la beauté d'être femme, la complémentarité, l'altérité, d'essayer de voir des exemples également par les vidéos que vous avez postées sur votre site. Vous allez à contre-courant de cette idéologie du gender, alors du genre. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez très brièvement nous dire pourquoi vous sentiez que le gender n'est pas juste, n'est pas bon pour la femme, n'est pas bon pour la famille, n'est pas bon pour notre société?
Oui, évidemment, vous l'avez noté, parmi les obstacles à l'identité de la femme, il y a la théorie du gender qui, elle, annihile totalement la notion d'altérité et met à bas une identité féminine spécifique versus une identité masculine spécifique. Alors, c'est le relativisme des années 80 réellement. Bien entendu, on pourrait remonter au 19e siècle et toute une longue histoire aboutissant à la théorie du gender, mais dans les années 80, on constate quand même un renouveau donné aux valeurs. C'est intéressant, et de ce point de vue, je ne suis pas forcément à contre-courant d'ailleurs, puisque ces valeurs-là peuvent sous-tendre l'idée d'une identité féminine spécifique. On constate que c'est clivant sur le plan politique, que certains disent non, on est en déni total de la spécificité de cette identité, les rapports hommes-femmes doivent être vraiment mis sur un même plan, on est dans un rapport homme-femme sans odeur et sans saveur, et on couvre ça sous le mot de tolérance, et ça c'est le fait que l'on n'assume plus cette différenciation sexuelle qui est à la source de la beauté de l'identité de la femme est réellement dommageable à l'expression de cette identité. Mon rôle est réellement dans ce contexte-là de poser des questions et d'affirmer que la femme fait avancer le monde quand elle est dans sa mission propre qui est, si l'on peut la résumer de manière aussi concise, qui est vraiment d'être dans le don d'elle-même. Aristote disait que la femme, que le mal, pardon, il commence par ça, il le pressentait bien, que le mal est celui par lequel est engendré et la femme par celle qui engendre en elle-même, par homme, et il dit textuellement par mal. Nous entendons l'être qui engendre dans un autre et femelle celle qui engendre en soi. Voilà. Donc, ça suppose forcément un don de soi. Et ça, la théorie du gender le met à bas, l'annihile, anesthésie les consciences totalement, puisque homme-femme, c'est kiff-kiff. Mais il y a une contradiction profonde, car au Parlement européen, dans les lobbies de la femme, on constate que très souvent, dans tous les textes légaux, elles veulent ajouter homme et femmes, au nom de l'égalité. Alors que par ailleurs, elles défendent l'idée que hommes et femmes, c'est pareil. Donc il y a quand même une contradiction, il y a quelque chose que l'on peut creuser, on peut arriver à les trouver là où elles sont, ces féministes radicales.
Alors, vraiment, on pourrait encore en parler très longuement. Nous avons déjà fait d'autres émissions sur le gender, sur le genre, que les auditeurs pourraient éventuellement retrouver sur le site de RCF. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous voudrions vous remercier et rappeler peut-être à nouveau et inviter à la curiosité nos auditeurs et nos auditrices womanattitude.com, womanattitude, attitude.com, un site à visiter absolument s'abonner à votre newsletter et peut-être essayer de vous rencontrer pour des conférences, pourquoi pas.
Formidable.
Merci beaucoup Laetitia Pouliken.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.